On en parle avec Aminata Tiamba.
Bonjour à tous et bienvenue, fidèles auditeurs, dans votre nouveau podcast qui s'intéresse aujourd'hui à la gestion du foncier au Sénégal. Face à de nombreux scandales à répétition sur le foncier, notamment le bradage du littoral dakarois, les Sénégalais dénoncent ce qu'ils appellent un accaparement de leur corniche au détriment des habitants. Le problème semble généralisé à l'intérieur du pays. Il s'agira avant tout d'éclaircir la lanterne des Sénégalais et d'essayer d'apporter des solutions aux problèmes qui se posent actuellement. Pour en parler, nous sommes avec Mokhtar Ba. Bonjour Mokhtar.
Bonjour Aminata.
Alors, vous êtes le président de la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral La Perle et vous êtes justement l'un des premiers lanceurs d'alerte sur les conséquences environnementales des projets immobiliers sur la corniche dakaroise.
Voilà. Et donc, effectivement, La Perle, parce que déjà dans le nom, on décline bien les autres, ce qui est en train de se passer. Il y a une historicité, la gravité de la situation. Nous parlions de risque d'irréversibilité. Et c'est ça qui a fait naître, en termes sémantiques, le terme réappropriation. Si vous voyez bien, tous les pays dans le monde ont eu des problèmes. Tous ceux qui, en tout cas, sont des pays littoraux et qui ont eu un problème littoral ont fini par faire des lois de récupération ou de reconquête ou de réappropriation comme la loi espagnole qui est une loi de réappropriation nationale de leur littoral. Donc c'est un peu dans cet état d'esprit que La Perle est née, faisant suite et faisant surtout écho à la riposte citoyenne qu'il y a eu en 2014 lorsque la Turquie a voulu construire son ambassade sur la corniche ouest de Dakar et que les Sénégalais sont sortis, des citoyens sont sortis, des pétitions vraiment étaient à des niveaux extrêmement élevés pour dire non à cette construction-là parce que ça leur barrait la vue sur mer. Et donc, vraiment une prise de conscience naissait à ce moment-là et nous l'avons marqué par la création de La Perle. Voilà.
Alors, c'est vrai que vous avez empêché la construction de l'ambassade de la Turquie sur la corniche dakaroise, n'empêche les projets continuent à pousser comme de petits champignons sur le littoral.
Voilà, ça c'est la fameuse exception sénégalaise, quand on pense que tout le monde a compris. Maintenant, bon, on va passer à autre chose, l'énergie, on va mettre ça sur autre chose. Et puis voilà, ça revient en arrière comme ça, comme si de rien n'avait été. Par exemple, on s'est battu contre cette ambassade, puis plus tard, on a vu l'ambassade du Koweït, je crois, mettre son drapeau. Bon, ils n'ont pas construit, mais on a vu qu'ils avaient clôturé un terrain avec leur drapeau dedans, etc. Donc, et en même temps, on ne voyait pas la politique d'inversion qui devait accompagner tout cela. Donc, notre combat de réappropriation s'inscrivait vraiment dans ces dynamiques. Les choses ont continué. Dans les termes que nous employons de plus en plus, nous parlons de dépossession, nous parlons de risque d'irréversibilité. Aujourd'hui, il n'y a plus à expliquer quoi que ce soit. Ceux qui voyagent, ils verront par eux-mêmes ce que les autres ont fait de leur littoral. Mais ceux qui ne voyagent pas, ils ont au moins l'Internet, ils ont des films. Ils voient ce que tout le monde fait. Un littoral, c'est un trésor, c'est de l'économie, c'est des finances, c'est de la sociologie, c'est plein de choses. C'est de la santé également, de la santé publique et tout cela. Et donc, on avait dit que, tiens, aujourd'hui, je crois que c'est bien parti. Malheureusement, non, les choses se sont aggravées. On n'est pas loin vraiment de l'irréversibilité et c'est ça qui fait bouger les choses depuis. Nous avons eu des actions sur lesquelles on peut revenir, mais c'est à partir de là que les choses ont commencé vraiment à bouger.
Nombreux sont les Sénégalais qui l'ignorent. Que dit le droit public maritime ? A-t-on le droit de privatiser le littoral ? Et si oui, quelles sont les conditions ?
D'abord, sociologiquement, vous savez que tous les Sénégalais, ils ont un lien avec la mer. Tout le monde. Il n'y en a pas un qui n'ait pas de lien avec la mer. D'abord, on est un pays littoral. Tout le monde fait son sport, mange du poisson, apprend à nager, etc., etc. Donc, la communication d'accompagnement ne s'est pas vraiment faite. Ça a été pour les universités, pour les gens de droit, etc. Mais la loi date de 76. Ça s'appelle 76-06, cette loi. 76-66. Et dit clairement que le DPM, le domaine public maritime, est inaliénable. Elle n'est pas cédable. On ne peut pas vendre le foncier là-dedans, ce domaine, pardon. C'est imprescriptible. Quand bien même vous en jouissez pendant un siècle, n'importe quel citoyen est fondé à le remettre en cause, à remettre en cause cette propriété. Alors, évidemment, quand on dit ça, on se dit, mais c'est protégé, alors pourquoi? Comment on a fait pour que ça puisse appartenir à des privés? Alors là est la question. Quelqu'un a dit, là, voilà, ça veut dire que nos amis sénégalais, quand il y a une loi, au lieu de suivre la loi, comme a dit quelqu'un ces jours-ci, eh bien, ils vont chercher la faille. Quelle faille? Et c'est une faille relative, d'ailleurs. C'est que quand on a une protection de ce type dans le monde, il y a bien entendu des procédures de déclassement. Parce qu'on peut parfaitement comprendre qu'on veut construire, par exemple, un bâtiment de défense militaire, voilà, sur le littoral, et qu'on vous dise, ben, non, ce n'est pas possible de construire là-dessus, on dit que c'est non édificandi, eh bien, il va falloir avoir passer par une disposition de déclassement. Mais cette disposition de déclassement, effectivement, permet de le sortir de cette domanialité-là pour le mettre dans le domaine privé de l'État, lequel État, bon, vous fait un bail, etc. Bon, on connaît la suite. On peut parler de cela. Mais enfin, le fait de le faire passer là, normalement, la disposition de déclassement a une vocation d'utilité publique. Quand on dit du foncier littoral qu'il est inaliénable, c'est parce qu'on on surveille, c'est l'utilité publique qu'on essaie de protéger. Alors, si on doit le sortir de là, évidemment, il faut faire la motivation. Il faut dire, on le sort de là parce que nous avons un problème d'utilité publique à régler. Mais on ne peut pas aller expliquer qu'on l'a donné à quelqu'un qui lui-même va l'hypothéquer, faire des appartements, puis se retrouver à les vendre. On fait naître ce qu'on appelle l'enrichissement sans cause. Donc, du coup, on est dans une histoire inexplicable. Et le citoyen, qu'est-ce qu'il a lui? Il voit progressivement son littoral se fermer. Il ne sait même pas, on va lui expliquer qu'on a fait des déclassements, on a fait ceci, il ne peut pas comprendre. Lui, ce qui l'importe, c'est que sa qualité de vie saute, et puis il n'a plus son océan, de plus en plus c'est privatisé, il n'y a même plus de mixité sociale, il y a très peu d'endroits où vous pouvez aller, tout le reste, quand vous y allez, on vous dit « ah non, c'est privé », comme ce qui nous est arrivé la semaine dernière quand on a été faire une visite sur les chantiers qui étaient en cours, on nous a carrément empêché de passer sur ces chantiers-là.
Un chantier à polémique, en tout cas, et qui défrait la chronique actuellement de l'actualité sénégalaise.
Absolument. Et voilà, donc finalement, nous, on a eu quand même un combat qui est assez compréhensible, parce qu'on tenait compte également de ces citoyens-là, comment il fallait nous former à comprendre ce qu'il avait entre les mains. La première chose que nous avons faite, nous avons dit, bon, nous sommes un pays où les discussions sans fin, là, ça nous caractérise. Alors, il faut absolument que sur certains points qui ont un risque d'irréversibilité, que nous nous entendions. Pas un accord entre appareils politiques, mais que nous ayons la même volonté au moins de traiter un problème, de compréhension d'un problème, de la manière dont il faut le traiter. Alors, donc, nous avons proposé un pacte politique pour sauver le littoral que nous avons soumis aux différents candidats de la dernière présidentielle. Ils étaient 5. Les 4 nous ont répondu. Le 5e, en fait, on n'arrivait pas à le joindre. Il était quelque part dans la bourse. Mais le président réélu nous a répondu en premier, en disant que ça correspondait parfaitement à son esprit. Tous les autres ont accepté ce pacte. Des citoyens, vraiment de grands leaders d'opinion, ont également appuyer ce pacte en signant, parce qu'il y avait une partie qui était réservée effectivement aux citoyens, parce que c'était le destinataire principal, le citoyen. Et par la suite, quand ils ont commencé à parler de dialogue national, ils nous ont appelés pour introduire le sujet environnement et cadre de vie, adossé à l'atout littoral. Et donc, il y avait les partis politiques, il y avait la société civile, comme on l'appelle, il y avait tout le monde là. Donc, nous avons fait ces propositions-là. Je crois que c'est ça qui a fait que la presse s'est intéressée au sujet de manière plus approfondie, a fait un grand reportage, m'a fait commenter ce reportage, et c'est ça, c'est dès le lendemain de ce reportage que ça a commencé à bouger dans tous les sens. Voilà.
Mokhtar, il est important de s'attarder un peu sur ce point-là. Comme le dit le droit maritime, on ne peut pas s'accaparer comme ça le littoral et le privatiser, à moins que ça ne soit à des fins qui bénéficient à toute la population. Les Sénégalais, beaucoup l'ignorent, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos. Que peut-on faire pour lutter contre cette appropriation du littoral? Déjà, cela n'est pas sans impact. Et déjà, à qui attribuer la faute?
Ah, grand débat en ce moment. Peut-être que c'est les sociologues qui doivent nous dire qu'est-ce qui se passe. En fait, moi, je suis de ceux qui considèrent que la responsabilité, elle est vraiment collective. Parce que quelque chose peut, comme ça, vous surprendre d'un point. Mais quelque chose qui se fait progressivement, jour après jour, mois après mois, avec des gens comme nous qui parlons dans les radios, à la télévision, qui écrivons, et rien ne se passe. Vous avez d'abord le citoyen lambda qui lui pense que c'est l'autre qui doit régler son problème. Même dans le cadre religieux, toutes les religions recommandent de protéger son environnement. Moi, je me souviens même d'un cours en latin sur Dieu a créé l'homme, lui a donné une terre pour qu'il en prenne soin. Je me souviens bien de cette version latine que j'ai eu à faire en quatrième ou troisième de l'école du lycée. Donc, il y a fondamentalement vraiment une responsabilité du citoyen là. Je ne sais pas si maintenant il faut le raccrocher à son niveau d'étude ou son niveau de compréhension des choses ou bien je ne sais pas. Alors, la religion, on en a parlé, et évidemment l'exécutif. L'exécutif, c'est lui qui a le job de protéger. S'il ne protège pas, ben là, on n'a rien entre les mains. Parce que l'exécutif, c'est un ensemble de choses. Hein. C'est l'exécutif, derrière, on a nos lois, on a nos tribunaux, etc. Donc, je crois que tout le monde a failli dans cette affaire-là, avec, de manière différenciée. L'exécutif, c'est le premier, mais le citoyen, moi, je ne veux absolument pas l'enlever de là. Parce que lui, il va nager. Quelque part, il va faire son sport et puis subitement, il se rend compte qu'il ne peut plus passer à tel endroit. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour lui? Donc, je crois que c'est ça qui commence, par contre, à se soulever. Peut-être pas de manière organisée que je suis en train de dire, parce qu'aujourd'hui, il y a des foyers de contestation foncière partout. Partout. Des choses se soulèvent, des choses qui n'étaient pas, dont on ne parlait pas du tout, qui étaient devant les tribunaux, tout ceci se soulève parce que les gens commencent à s'organiser vraiment en disant que c'est un problème de rapport de force. Et alors, c'est dans ce contexte-là...
Même pas uniquement le littoral, mais le problème semble être généralisé à l'intérieur même du pays, avec certains paysans qui, aux dernières nouvelles, se plaignaient de la dépossession de leurs terres par une tierce marge de la population.
Mais exactement, c'est ce que j'étais en train de dire. Ça a fait naître tout, ça a fait bouger tout. Il y a des foyers de contestation foncière partout. Il faut savoir que le monde a été secoué par le problème foncier. Même si vous retournez à la guerre mondiale, c'était quand l'Allemagne nazie a voulu récupérer la Pologne, en parlant d'espace vital pour prolonger l'Allemagne. C'est deux jours après qu'il y a eu la déclaration de guerre de la France et de l'Angleterre. Mais c'est partout. Partout, vous voyez, on me dit même que la Casamance, ce n'était pas arrivé à ce niveau-là. Il y a des gens qui expliquent que, au départ, c'est des problèmes fonciers qui ont fait naître la première réaction des gens. Non, quand on le regarde, il n'y a rien à faire. Des contestations foncières, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce qu'on peut même ne pas avoir le même problème. Je ne peux avoir qu'un problème foncier avec mon voisin, alors qu'un autre, c'est quelqu'un qui vient récupérer ses terres, le paysan. Là, on a vu ces choses-là ces derniers jours. On en parle beaucoup d'un homme d'affaires qui est dans une disposition de faire une usine agro, je ne sais pas pourquoi, et qui a pu avoir 300 hectares. Et puis maintenant, les gens sont en train de se soulever là-bas en disant « il n'en est pas question ». On a vu ce qui s'est passé à Gadaï où les forces de l'ordre ont été particulièrement brutales pour bloquer des gens qui voulaient faire une grève de la faim sur des terres qu'on leur avait enlevées, etc. Donc, a priori, ce sont des gens, chacun a son problème foncier. Mais le jour où vous voulez les fédérer, mais attends, c'est automatique. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors,
en tout cas, ces problèmes sont récurrents. Là, déjà, aux dernières nouvelles, le président Macky Sall a mis fin à toutes les attributions et tous les projets d'aménagement. Mais est-ce que cette décision-là vient déjà à point? N'est-il pas tardif?
Il vaut mieux tard que jamais. Et puis nous, on a travaillé justement dans ce sens-là. Quand on faisait le pacte politique pour sauver le littoral, ce n'est pas un pacte comme ça qui a été fait. Il y a beaucoup de professionnalisme dans de différents métiers. Hein. C'est pas, ça ne sort pas de ma tête comme ça. Vraiment, quand on le fait, il faut être économiste, il faut être financier, il faut être sociologue, etc. Toutes ces dispositions, ils sont. Et il fallait les ramener à très peu de points. Là, il s'agit de 8 mesures que nous avons proposées, justement, en tenant compte de ce que nous sommes capables de faire ou de ce que nous ne sommes pas capables de faire. Nous sommes, une de nos références, c'est le Rwanda aujourd'hui. On en parle, le président en parle, on le voit dans les réseaux sociaux. Si c'était le Rwanda, on sait ce qu'il allait faire, il allait tout enlever. Si vous allez au Maroc, on a vu il y a quelques mois, le roi du Maroc a enlevé des villas et a fait détruire un hôtel ou deux, je crois. Si vous allez en Inde, le premier ministre Modi, ils viennent de démolir deux gratte-ciel, justement en bord de mer. Donc, les gens réagissent selon les niveaux qui sont. Au Sénégal, est-ce qu'on est capable de faire cela? Est-ce qu'on est capable de dire, nous démolissons tout? Moi, je ne crois pas. Bon, évidemment, il y a des choses, c'est des régimes qui les font, c'est des régimes qui les enlèvent, c'est à la faveur des révolutions ou des changements de ceci ou de cela. On a vu les nationalisations s'effectuer. Voilà, ça dépend de la violence avec laquelle ces choses-là se font. Mais quand on est là, moi, je me suis positionné un peu en amont de ça, en disant qu'il faut être ferme dans le diagnostic. Il faut vraiment le marteler pour que les gens voient que ça peut être extrêmement dangereux. Et donc, le pacte a été construit en tenant compte justement de tout cela. En disant, un, il faut le calibrer au niveau où nous sommes, nous, Sénégalais. Deux, quand on dit démolition, c'est politique, évidemment. C'est des changements de régime ou autre. Nous parlons de destruction créatrice. Donc, nous disons, ce n'est pas le politique qui va répondre, qui va régler le problème. C'est l'économie qui va le faire. Il y a évidemment une certaine volonté politique de le faire, mais qui est automatique, puisque le politique va gagner. Il ne s'agit pas d'une démolition où on laisse quelqu'un en rade et puis voilà qui a tous les problèmes du monde. Là, il s'agit de l'enrichir de ce qui va se passer par la suite lui-même. Dans la destruction créatrice aujourd'hui qui rythme le monde à cause des mutations résultant des innovations, du numérique, tout ce qui nous est apparu ces 10, 15, 20 dernières années et qui change complètement le monde à tous les niveaux. Mais l'économie, ça marche comme ça. Je vous donne un exemple. Si vous avez aujourd'hui quelqu'un qui a une maison, on lui a fait un déclassement, on lui donne 1000 mètres carrés, il fait sa maison, grande maison, piscine, etc. C'est sa richesse, c'est son confort, lui et sa famille. Mais imaginez un seul instant, qu'on enlève cette maison, on peut mettre juste, vraiment à titre d'exemple, qu'on mette un restaurant à la place. Un restaurant, c'est du chiffre d'affaires, donc c'est des impôts, c'est donc une richesse publique. Deux, c'est des emplois. Trois, c'est de la mixité sociale. Une maison, vous n'y recevez que vos amis. Un restaurant, tout le monde peut y aller. C'est de la mixité sociale. C'est un service presque public. Celui qui vient, tout le monde peut y aller. Le citoyen comme le touriste qui vient, qui sait qu'au Sénégal, moi par exemple, j'adore aller en Thaïlande, à Bangkok. Mais une des raisons, c'est peut-être les restaurants aussi, etc. Donc, si vous avez cet état d'esprit sur l'ensemble du littoral, j'ai pris juste le restaurant, mais il y a plein d'autres choses, là où les gamins peuvent s'amuser, là, l'épanouissement. Il y a quelqu'un qui me disait, mais comment on le construit? J'ai dit, mais c'est à partir de l'économie des besoins. Le besoin touristique, le benchmarking, qu'est-ce qu'ont les autres, etc. On construit en tenant compte de cela. La personne âgée qui est au chapelet, mais qui de 17h à 18h a besoin d'aller se balader, de marcher avec son chapelet, il faut qu'il ait son espace de chapelet au niveau de ce littoral. Ceux qui font leur sport, pareil, il faut même des pistes cyclables qui puissent vous permettre d'aller à vélo pour faire une dizaine, quinzaine de kilomètres pour aller au travail, marcher pour aller au travail. Tout ceci est possible, donc c'est à partir des besoins que nous allons travailler. Aujourd'hui, le monde est à l'économie de la vie avec le Covid là, qui vient de naître. Quand vous entendez les économistes, les sociologues, les anthropologues, de plus en plus, ce sont des notions dont on entend parler. L'économie de la vie créatrice de bien-être. Dans bien-être, il y a la santé publique d'abord. Parce que ce littoral-là, si ça fait partie des différents points, hein, je suis en train de les ramasser comme ça, mais on a des réponses sur chacun de ces points. Quand on sait construire une bonne politique nationale d'architecture et d'urbanisme et d'aménagement, mais on va tenir compte de ce qu'on appelle les ruptures d'urbanisme. Les ruptures d'urbanisme permettent au vent, à l'effet venturi océanique, de souffler et de balayer la pollution. Alors, si vous ne tenez pas compte de cela et qu'en construisant, vous barrez la ventilation de la ville, eh bien, c'est ça qui fait qu'on dise de Dakar que c'est la deuxième ville la plus polluée du monde ou plus polluée au monde, justement. Alors qu'on est une presqu'île, nous sommes battus par les vents. Normalement, on devrait être super bien dans cette ville et on se retrouve à y avoir chaud, à avoir plein de moustiques, alors que la dispersion des moustiques, la ventilation y est, etc. Plus maintenant, bien sûr, le balayage de la pollution. Donc, on a tenu compte de l'économie des besoins pour construire tout ça. Et donc, une des choses, et le gouvernement vient de nous suivre sur cela, et vraiment, je m'en réjouis. Donc, nous nous réjouissons d'abord de nous être battus, pas pour rien, parce que maintenant tout le monde en parle. On en arrive même à nous oublier, nous qui étions les pionniers et qui avons bravé la tempête pour ça. Donc tout le monde se bat. Et le gouvernement, déjà, quand les reportages sont sortis, moi personnellement, j'ai été immédiatement contacté par le gouvernement pour me dire qu'ils l'ont vu et qu'ils souhaitaient que nous nous voyions. Nous nous sommes vus. Nous avons exprimé, réexpliqué ce pacte-là qui date depuis la présidentielle et dont ils avaient dit que ça correspondait à ce qu'ils faisaient, parce qu'eux-mêmes, ils parlent beaucoup maintenant de cadre de vie. Ils ont un ministre hyper dynamique qui est très visible sur ce terrain-là, etc. Et donc, nous sommes venus leur dire, premier point, c'est justement, Aminata, votre question du début, le Sénégal est là, qui regarde les choses se faire. On a dit, il faut un texte très simple en attendant cette fameuse loi que nous considérons de réappropriation et pas un décret d'utilité publique qui est un texte simple qui va aujourd'hui vraiment montrer à tout le monde qu'entre la route, que ce soit une corniche ou en tout cas la route qui longe la mer, et la mer, c'est d'utilité publique, ça appartient aux citoyens. Ça appartient aux citoyens. Donc, le citoyen, là, justement, quand il va dire, mais moi, on dit que ça m'appartient, ben, on va lui expliquer. Ah, si vous voulez faire votre chapelet, voilà où, là où vous allez marcher. Si vous voulez aller à la mer, là, vous pouvez y aller. Il n'y a rien qui puisse vous bloquer. Si on construit quelque chose, vous pouvez dire, ah non, mais ce bâtiment-là, on va dire, non, ce bâtiment-là, il y a tant d'emplois, il y a tant de chiffres d'affaires. Ce chiffre d'affaires-là, payer des impôts, il y a une taxe de privilège littoral que nous avons prévue et qui va financer un peu les aménagements, etc. Donc, le premier point sur lequel vraiment le gouvernement nous a suivis, c'est ce fameux décret instaurant définitivement le statut d'utilité publique. Comme ça, tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire. Ça nous appartient entre la route et la mer.
Est-ce que cela suffit? Y a-t-il d'autres solutions qui peuvent être apportées? Parce que là, nous sommes au bord de l'asphyxie. Et quand je dis nous sommes au bord de l'asphyxie, là, nous parlons des Dakarois avec le littoral qui est bradé, entre autres. N'est-il pas trop tard déjà pour apporter des solutions?
Eh bien, nous, justement, c'est nous qui avons les solutions. On disait qu'il y a un risque d'irréversibilité. Nous sommes en train d'y faire face. Il y a les 8 mesures. Bon, la première mesure, je vous l'ai donnée tout de suite, le décret d'utilité publique. Deuxième mesure, c'est concomitant, hein, c'est simultané quasiment, c'est mettre la main, c'est des mesures conservatoires. Quand on dit irréversibilité, vous avez le sang qui coule, il faut stopper le sang. Donc, la première des choses, c'est de voir tout ce qui n'est pas encore touché et de mettre la main dessus dès que l'État va exercer un droit de reprise pour cause d'utilité publique et n'a pas à verser des indemnités de quoi que ce soit, ce n'est qu'une terre. Voilà, c'est un bail qui est là, qui n'est pas construit. Et celui, en général, d'ailleurs, quand on cherche, quand on regarde le bail entre le moment où il a été donné et le moment où on veut exercer ces droits-là, le bail ne devrait même plus fonctionner parce qu'on n'a pas respecté souvent les conditions. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faut être rationnel. On commence par mettre la main sur ce qui n'est pas encore touché. Troisième point, nous disons, ce qui ne peut pas être encore touché aujourd'hui, c'est la taxe de privilège littoral. Prenez le Radisson. Prenez, par exemple, le Théroubi. On ne va pas l'enlever. Vous êtes à Dakar, vous pensez que vous allez démolir ça? On ne démolira pas. Les gens ont beau parler, ils ne le feront pas. Et donc, du coup, nous disons, notre réponse est la taxe de privilège littoral. Vous m'empêchez de voir la mer, vous payez. Vous empêchez les vents de me rafraîchir, vous payez. Vous empêchez les vents de disperser les moustiques qui me piquent, vous payez. C'est suivant le principe du pollueur-payeur. Et ça va être calculé sur les résultats nets de ces activités-là. On va également demander à ces activités-là de construire et de laisser les servitudes de passage. Comme le dit la loi 83.05 qui dit le citoyen, là, il a droit aux servitudes. Il va à la mer comme il veut. Donc, c'est des servitudes de passage. Prenez le Radisson qui est directement sur les rochers. On va lui demander, par exemple, de faire ce qu'on appelle en France là, le sentier du douanier. Devant cet hôtel, il va y avoir une piste donc, où on peut cycler, où on peut marcher, où on peut se mettre et pêcher entre l'hôtel et la mer. Il y aura le citoyen. Donc, ça ne va pas être le contraire. Donc ça, c'est la taxe de privilège littoral. Et maintenant, j'en viens à la destruction créatrice. C'est ça l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons gagner de l'argent par la rectification. Nous n'allons pas dire, bon, c'est perdu. Non, nous allons... Ceux qui gagnent de l'argent aujourd'hui le gagnent dans le bradage, dans la spéculation. Les enfants de Ami gagneront de l'argent en reprenant cela par la destruction créatrice. Ils vont s'enrichir. Donc voilà, mais ça, évidemment, c'était un travail rigoureux. C'est souvent, c'est pas très sénégalais d'ailleurs. Il faut être hyper sérieux, faire un plan d'action, faire les prévisions de cela, et puis le dérouler. On a 10, 15, 20, 30 ans de boulot là. Et directement avec un impact sur la croissance économique, c'est l'aspect économique. Donc on a vraiment fait un gros boulot dessus. Et je vous ai développé ça tantôt avec l'économie des besoins, l'économie de la vie, même le silver economy, c'est ça qui m'a fait dire, ben, celui qui est au chapelet, là, qui est dans son dernier âge, celui-là, il faut en tenir compte. Mais sinon, quoi, on va le sacrifier, on va dire c'est un fragile, on va laisser le virus le liquider comme ça. Non, c'est toutes ces choses-là qui sont posées et qui rythment un peu ce pacte-là. Ensuite, maintenant, il y a des choses qui sont assez technique. Par exemple, quelque chose que j'ai vu au Maroc, la place des potentialités, et que j'ai reproduit dans ce pacte en disant, il faut une cartographie des potentialités. Deux exemples pour bien comprendre ce dont on parle. C'est que sur ces littorales-là, il faut qu'on regarde, on va se rendre compte que chaque endroit a une histoire. Et donc, il va falloir raconter cette histoire par l'architecture. Raconter cette histoire pour les touristes, pour les Sénégalais qui se baladent, etc. Je vais vous donner deux exemples. Un, le phare des Mamelles. Le phare des Mamelles, donc, il ne vous appartient pas à nous tout seuls. C'est le Pléistocène, là, c'est-à-dire jusqu'à 2 millions d'années, c'est un volcan, a priori endormi, d'après ce qu'on nous dit, etc. Mais qui est un symbole de biodiversité, un symbole biologique absolument extraordinaire. Alors, on va faire parler ce phare-là à travers un festival de son et de lumière comme la pyramide du Gizeh, que je connais bien au Caire. C'est comme ça, on va raconter cette histoire-là. Le soir, les gens s'assoient, un festival de trucs de lumière. Et puis bon, vraiment, y faire des choses phoniques absolument incroyables. Donc ça, on a la potentialité. OK. À côté, il y a les moules, les peuples de l'eau. Voilà, il y a des endroits qu'on va faire pour organiser un peu cette histoire-là, apprendre ça aux gens, etc. Vous allez sur la pointe des Almadies. La pointe des Almadies, c'est ce qu'on appelle le Finistère africain. La pointe la plus avancée vers l'Amérique, de l'Afrique vers l'Amérique. Les Américains, ils ont leur hôtel. Je leur disais une fois, mais il faut que nous nous donnions la main sur le Finistère africain, que nous fassions quelque chose en commun, un aménagement pour qu'on sache qu'à cet endroit, quand vous y êtes, vous faites face à l'Amérique. Et c'est comme ça, avec toute l'histoire des bateaux. Il y a un bateau d'ailleurs qui a sombré là-bas, etc. Non, et un avion aussi à l'époque. Il y a du tout là-dedans. Donc, quand on veut faire quelque chose de bien, vous allez voir. Si vous allez à la ville de Windhoek, à 200 km, vous avez ce qu'on appelle le tropique du Capricorne, ben, c'est une ligne imaginaire. Tout le monde va y aller. Pourtant, vous n'êtes que sur une ligne imaginaire, hein, comme si vous disiez, ah, on va aller sur l'équateur, ligne, etc. Donc, c'est ça les potentialités. Et vous allez aussi.
Cela est très beau, mais pour cela, on est d'accord sur le fait qu'il faudrait une volonté politique derrière tout ça.
Ah, mais il faut ça, vous, la presse, voilà, tout le monde est dedans. Si vous comprenez, par exemple, quand moi, Ami est en train de m'interviewer, mais moi, je ne me présente pas comme si j'avais des idées comme ça, d'autres ont des idées. Non, nous nous battons ensemble pour que les enfants puissent respirer. Oui, tout le monde doit s'y mettre. C'est un problème de santé publique. C'est un problème de santé publique. On doit évoluer vers la santé durable. Il faut que nous soyons en bonne santé. La première des choses, c'est de respirer un air qui tient là. Si on n'a pas ça, mais vous êtes malade. On dit que 20% des enfants sont asthmatiques aujourd'hui à Dakar ou un problème respiratoire. Donc, c'est ça qui va pousser la volonté politique. Ce n'est pas la volonté politique, le bon vouloir du chef, tout est rapport de force, de compréhension, etc. Nous voyons en France, j'ai entendu Hulot dire, le grand problème que nous avons sur le problème environnemental, expliquant d'ailleurs ces problèmes-là, beaucoup plus généralement, c'est la quotidienneté des opérations. Vous êtes en train de vouloir faire telle et telle chose, et puis, bon, ben, vous devez faire face à telle chose tout de suite. Le politique, lui, il va finir par réagir comme ça. Et même la manière dont nos gouvernements ou notre architecture institutionnelle est faite, mais tout ça, ça doit changer. Parce qu'on s'aperçoit que dès l'instant où on est dans des problèmes d'élection et de réélection, vous ne pouvez rien faire, ami. Parce que vous dites, bon, si je travaille bien, je vais virer. Parce que les gens n'ont pas le temps de voir, parce que le travail bien fait est structurel. Il est lent et il est structurel. Par contre, Maintenant, si je fais du bling-bling, je vais faire une route ici, je vais faire etc., etc. On va perdre beaucoup d'argent, mais les gens vont dire, ah oui, oui celui-là, il travaille. Hein. Donc, même cela, ça doit changer. Moi, je ne veux pas rentrer sur les questions politiques, mais je considère que chez nous, gros problème à régler, on doit se taper, par exemple, 10 ans de pouvoir et puis on s'en va. On sait que c'est un mandat unique et voilà. Et puis, on peut régler ça. Pardon ?
Je dis en tout cas, cette question foncière-là, elle va au-delà de tous les clivages politiques.
Ah, okay. J'aime bien le terme. Au-delà des clivages politiques, quand le pacte était annoncé, l'un des mots-clés, c'était hors des clivages politiques. Nous parlons hors des clivages politiques. Nous ne cherchons pas un accord entre appareils politiques. J'ai le pacte devant moi, là, d'ailleurs. Il y a une phrase emblématique que j'avais pu mettre sur ça. Bon, je ne vais pas perdre du temps à le chercher. Mais c'est au-delà des clivages politiques, on construit un consensus autour de cette cause commune. On peut ne pas s'entendre sur la gestion de la manière dont il faut gérer le pétrole, ami. On peut s'entendre sur la manière dont on gère le gaz. Oui, il faut le faire comme ça, il faut faire ceci. Nous, on sait, voilà, en Norvège, c'est comme ça, mais dans tel pays, c'est comme ça. Ils se sont développés avec ça, mais en Norvège, là-bas, ils le gardent pour les générations futures. Il y a du tout. Par contre, l'air que nous respirons, c'est inégal. Ça, il faut bien qu'on s'entende dessus. C'est même pas s'entendre dessus, c'est vraiment avoir la même volonté de...
C'est un impératif.
Voilà.
En tout cas, nous sommes arrivés presque au terme du temps imparti. Nous nous reste que 2 minutes, je peux dire.
Mais j'aimerais, si c'est possible...
Que les Sénégalais sachent que ce littoral où les terres leur appartiennent et qu'ils ont leur mot à dire là-dessus.
Voilà.
Il est bon de sensibiliser, et surtout à travers de telles initiatives que vous avez la perle.
Mais justement, mais il y a une chose, dernier point sur les 8 mesures, Ami, c'est le LUDI, littoral, urbain, durable, intelligent. Donc, dans les grandes universités maintenant, il y a ces concepts-là. Alors, l'application chez nous, dans nos universités, c'est quoi ? Ça va, c'est assez puissant. Prenons la faculté de médecine. Le médecin, le pneumologue, il est formé à, tu es malade, et puis il va vous soigner. Eh bien, désormais, ce pneumologue-là va s'intéresser à ce qui amène les maladies pulmonaires. C'est la construction du littoral va être dans sa formation. Ça fait partie de son diagnostic et de ses responsabilités. Vous voyez bien. De la même manière, le phare des mamelles dont on parlait, mais avant que nous, on nous voit en train de nous battre contre les constructions qu'on faisait sur le versant du phare, mais il fallait qu'il y ait d'abord la faculté des sciences, géologie. C'était eux là, c'est leur terrain d'études et c'est là où ils font leurs différents machins, quoi, comment ça s'appelle, leurs tests et tout ça, leurs recherches. Donc, il faut absolument que les gens soient formés à la richesse qu'ils ont entre les mains. Voilà, c'est ça.
En tout cas, c'est très important, Mokhtar. Ce fut un plaisir, en tout cas, de vous avoir dans ce podcast.
Mais moi aussi, comme d'habitude, c'est pas la première fois que je suis interviewé par Ami, dont je vois la compétence et tout. Et puis, je fais mon plaidoyer. Je dis, vous êtes journaliste. Bon, moi, je suis dans la vie citoyenne. Moi, je suis un expert comptable. C'est pas mon métier, ça, mais... je fais de l'architecture, je fais des choses comme ça. Quand j'ai une idée comme celle-là, ben je m'y mets vraiment. Et je crois que cette histoire-là de santé publique, si on n'a pas compris avec le Covid, maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui se fait. Hein. Voilà, c'est vraiment la fragilité vient de là. Il faut définitivement comprendre que la vie, c'est vraiment le but. C'est la qualité de vie. On parle d'économie de la vie créatrice de bien-être.
Alors,
on en est là.
Voilà. En tout cas, merci Mokhtar, c'est très gentil, et à nos fidèles téléspectateurs, auditeurs plutôt, on se donne rendez-vous pour un autre podcast. Merci.
Merci beaucoup, au revoir.